15. Les mers supérieures. Ô dulcissima, atque amantissima mater, salve. Hildegard von Bingen. Une fois encore, elle était dans les nuages. À son âge, cela manquait un peu de sérieux et même de gravité. Retombait-elle en enfance? Secouait-elle la charge de ses responsabilités et de son ministère? Où fuyait-elle ainsi le monde dont on l'avait chassée et qui revenait assiéger sa retraite? Le monde, ce monde cruel et trompeur, et pourtant si beau quand on le contemplait en planant parmi les nuées. Elle se sentait l'âme d'un tiers soleil rebelle qui avait échappé aux gants du fauconnier et pendant un instant de grâce retrouvait l'illusion de la liberté en glissant sur la lumière et le vent. À perte de vue, sous les voûtes vaporeuses des cieux, se déployait l'immensité des pays de Bromel, de Kimark, de Brockmel, et même les marches nébuleuses de Louromagne. La rêveuse tourbillonna dans une mantille de brume et de grand air. Son cœur usé battit plus fort. N'était-ce point une odeur de mer que la brise portait à ces altitudes? Son regard, qui avait retrouvé toute l'acuité de la jeunesse, balaya les confins occidentaux. Vaux et collines étaient tapissés par la reverdie des forêts, marquetés de terres cultivées, égratignés de ruisseaux et de chemins. Et puis, au fin fond des horizons, loin, loin à l'ouest, là où l'immensité se brouillait en vertiges miragineux, bavait un interminable ruban bleuté qui aurait pu être l'océan. Toutefois, les échos d'une clameur remontée jusqu'à la rêveuse la tirèrent de sa contemplation. Tout en bas, quasiment à la verticale de sa robe de vapeur, une fête avait déposé sur la campagne son écume bariolée de tentes et de pavillons. Massée le long des barrières et sur les murets d'un château de poupées, un fourmillement humain lançait par vagues une rumeur grondeuse. Délimité par les deux camps et par les reflets brillants du soleil à la surface d'un étang, un vaste champ paraissait presque vide. Quelques chevaux s'en échappaient, une poignée d'énergumènes s'y bousculait. Certains, allongés dans l'herbe, avaient l'air de lézarder avant l'heure de la sieste. Aperçu d'aussi haut, tout ce petit monde paraissait aussi charmant et coloré qu'une miniature de codex. Pourtant, la rêveuse en conçut une frayeur inexplicable, et l'atmosphère soudain zébrée de pluie s'assombrit autour d'elle. Elle voulut tout à la fois mieux voir et fuir cette joute de jouets, et l'air se déroba soudain sous elle. Dans un accès de panique, elle se sentit chuter, avant qu'une bourrasque ne la soulevât encore plus haut en dispersant l'averse et les ombres. Elle se laissa alors rouler dans les bras de la brise et les écharpes de nuages, soulagée mais aussi inquiète d'abandonner au-dessous d'elle ses brutales réjouissances. Malheureusement, le vent la poussait vers l'Orient, et il lui fallut également renoncer aux séductions de l'océan. Loin au-dessus des bancs d'oiseaux dont les sorts mouchetaient landes et feuillages, elle survola les coteaux des hautes terres d'Agurande. Les forêts y bouillonnaient en frondaisons épaisses que les vents brossaient parfois de longs frissons. Des fumées s'accrochaient aux crocs noirâtres du château d'Ouchain. Les hêtraies du Drusservin soufflaient des brumes dorées dans le soleil. Secouée par quelques turbulences, la rêveuse voltigea par-dessus les collines et plana au-dessus du versant nord des hautes terres. Des taillis malades que le printemps rechignait à gagner embroussaillaient les combes. Une rivière à robe de couleuvre rampait en fond de vallée, en jaillissait la démesure blafarde des tours de verre. Plus loin, par-delà de tristes lisières, le vent et les nuages balayaient d'éclaircies fuyantes les pâtures qui dépendaient du château. Les campagnes redevenaient ensuite riantes. Les toits de chaume des villages se serraient comme des pelotes en fond de corbeille. Les champs échelonnaient des damiers verts et bruns dans les terroirs. Des troupeaux piquetaient les prés de leurs robes rousses. Au bout d'un moment, une faille majestueuse creusa le paysage. À l'est, les terres s'élevaient à nouveau vers le rempart boisé du Chevêchin et ses majestueux reliefs. Descendu du massif, le Vernobre partait arroser les basses terres de Bromel. Sur cette marche, aux confins du comté de Brocmel, de la baronnie de Brégor et du fief de Combe-Noire, il précipitait encore son fil d'argent au fond d'une gorge escarpée. Une buée froide remonta jusqu'à la vagabonde comme elle papillonnait au-dessus du précipice. Mais d'un coup de rêve, elle était déjà loin, elle filait vers le nord, l'immensité vallonnée des campagnes à sa main gauche, le soulèvement grandiose des monts à sa droite. Avec la fugacité des songes, le voyage et le jour tiraient déjà à leur fin. Le soleil s'abaissait à l'ouest en allongeant les ombres des collines et des bois sur les riches terres du duché. Au nord, la rêveuse apercevait les pignons, les pennons et le chatoiement des girouettes couronnant le château de Traval, grande nave de pierre ancrée dans une mer de lopins, de vignes et de vergers. Au nord-est, bien plus haut, sur un contrefort du Chevêchin, les murailles et le dôme du sanctuaire de Mondoire baignaient dans la lumière du soir. La rêveuse se laissa porter vers l'enceinte religieuse. Elle se demanda combien de frères et de sœurs relèveraient le nez de leur lutrin pour la voir atterrir, et se dit surtout qu'il ne faudrait pas effaroucher le colombier. Par les échancrures des nuages, le soleil épandit une gloire sur ce paysage, et la vagabonde crut y lire un signe favorable. Elle vira légèrement pour traverser une douche de lumière. Sans avertissement, les choses prirent un tour inattendu. L'âme aérienne heurta un obstacle lisse et translucide qui vibra d'un long fracas cristallin. Étourdie, elle tourbillonna un instant sur elle-même, plus effarée qu'endolorie. Puis, elle se rendit compte que le rayon de soleil traversait les nuées par un grand vitrail suspendu en plein ciel. C'était contre ce miroitement de verre qu'elle venait d'achoper. Toute la lumière tombée du firmament passait par d'autres vitraux, sertis dans des nuages qui se teintaient d'incendie et d'orage. « Je suis déjà redescendu. Me voici dans la nef, » se dit la rêveuse. Mais elle savait qu'elle tenait ses propos pour se rassurer, et elle se reprocha son aveuglement. Car les vitraux du temple n'étaient ornés que de versets et de feuilles automnales, non de figures. Or, sur cette verrière céleste, flamboyait toute une galerie de personnages. Sur l'un des panneaux s'affrontaient deux cerfs héraldiques. Sur un autre, une vieille géante scrutait la rêveuse de ses yeux émeraudes, un chat minuscule perché sur son épaule. Sur une troisième, l'ambitieux myste Scolonagre avait bizarrement adopté l'humilité du martyr, symbolisée par un collier de cordes. À chaque découverte, l'âme pérégrine se troublait davantage. Elle finit par revenir au vitrail auquel elle s'était cognée et prit un peu de champ pour en embrasser le sujet. Plus grande que nature, la duchesse Odéhard y siégeait en majesté, parée d'une robe immaculée et nimbée d'une auréole de ténèbres. La rêveuse porta une main immatérielle à sa bouche. Quelque part, une lourde porte cédait sous un assaut et d'autres voix que la sienne poussèrent des cris d'effroi. Elle s'éveilla en sursaut, dans la pénombre à peine éclairée par sa veilleuse. Elle tendit l'oreille, l'esprit encore retentissant des rafales du vent et de la clameur épouvantée. Mais seule la torpeur du sommeil profond régnait dans les chambres onirocritales. Comme souvent lorsqu'elle descendait consulter la déesse dans le sein des saints, la religieuse se sentit désorientée. Elle ne savait plus très bien qui elle était. Après un instant de confusion, ses noms lui revinrent. Le plus ancien d'abord, celui qu'elle avait abandonné. Puis le second, celui du renouveau et de la piété. Avec lui, ses maigres épaules ployèrent à nouveau sous la charge des soucis et du sacerdoce. La mystagogue Prudence se redressa sur sa couche. Elle était en nage. Elle se sentait engourdie et sa vessie était pleine. Mais elle frémissait encore de la puissance du songe, tout en craignant que les efforts pour le retenir ne servissent qu'à repriser une trame bientôt désagrégée. Elle eut la présence d'esprit de serrer les poings, mais ses mains étaient vides. Du reste, qu'aurait-elle pu rapporter de ce périple? Un peu de rosée? Un souffle d'air frais? La révérende mère du sanctuaire de Mondoir était lucide. Elle savait qu'elle n'avait pas de grand don divinatoire. Elle ne serait jamais de ces mystiques qui se réveillaient avec, au creux des paumes, la cristallisation de leur vision. « Ô divine sagesse, murmura-t-elle, éclairez-moi. Que m'avez-vous montré ?» Le silence familier de la déesse lui répondit. Depuis sa niche au-dessus de la tête de lit, la veilleuse éclairait doucement la courte pointe aux broderies automnales. La petite flamme distribuait des éclats chaleureux et des ombres mouvantes le long des plis des courtines. Trois voilages superposés entouraient les alcôves des chambres onirocritales. Ils protégeaient les dormeurs de la fraîcheur de la crypte et pouvaient servir d'attrape-rêve. Par le passé, Prudence les avait parfois vus onduler. C'était souvent lorsqu'elle avait reçu la visite du petit garçon. Mais la mystagogue était trop raisonnable pour croire qu'elle réussissait vraiment à retenir le songe, même pendant quelques instants. Elle avait les yeux brouillés de larmes lorsqu'elle émergeait de ces rêves-là. Il suffisait que la porte des cryptes et celle du temple fussent ouvertes pour que circulât un courant d'air. Prudence n'en murmura pas moins les obsécrations augurales en écartant les trois voiles. Elle ne découvrit rien, mais se sentit juste rattrapée par un froid de cave. Les murs de l'absidiole cernaient de près le grand dais. L'espace était à peine plus large que celui d'une cellule. Sur une banquette de pierre, l'attendaient ses vêtements sacerdotaux, proprement pliés. Elle se contenta d'enfiler son scapulaire, brodé de feuilles mortes, puis passa sous la porte basse pour gagner la chapelle souterraine. C'était une petite nef obscure, à peine éclairée par une autre veilleuse qui créait des berceaux d'ombre derrière la double colonnade de piliers. Sur les bas-côtés, on devinait les arches basses de plusieurs absidioles et leurs baldaquins auguraux. Prudence gagna le centre de la crypte. Quelques marches y descendaient à la fontaine de vérité, un bassin rempli d'une onde dormante. S'agenouillant au-dessus de la vasque, elle en préleva le contenu d'un calice. Elle consulta la petite clepsydre qui s'égouttait dans le réservoir. C'était la 11e heure de la nuit. Au printemps, l'écoulement régulier de l'horloge à eau concordait à peu près avec le cycle diurne. L'aurore devait poindre au-dessus des reliefs ténébreux du chevêchin. Prudence remplit la clepsydre et but les dernières gorgées du fluide de vérité. Sa pureté liquide, un peu calcaire, acheva de la réveiller. La mystagogue regagna son absidiole, en ouvrit complètement les courtines, refit le lit avec une soigneuse diligence. Elle n'avait pas besoin de se coiffer. Voilà 15 ans qu'elle avait sacrifié sa chevelure, rituellement tondue. Elle noua sa toile sous le menton, puis mit le voile en chuchotant un psaume propitiatoire. À sa ceinture, elle accrocha un chapelet tout simple et un lourd trousseau de clés. Dans cette mise modeste, seul l'anneau abbatial, qui accrochait parfois la lumière sur sa main, permettait de deviner sa charge. Une fois prête, elle refit une brève station dans la crypte. Par-delà la fontaine de vérité, elle contempla le mur arrondi de l'abside. Il comportait trois porches bas et fermées. Là se trouvait vraiment le foyer sanctifié des chambres onirocritales. Personne, ou presque personne, ne franchissait jamais ces ouvertures. Et les profanes ignoraient généralement leur existence sous la nef et le cœur du temple. En fait, dans les prieurés les plus modestes, de simples arcatures de pierre remplaçaient ces entrées. Mais les grands sanctuaires comme Caroël, Avreval ou Mondoir était bâti au-dessus d'authentiques portes hermétiquement closes. Ces trois seuils manifestaient la présence réelle de la vieille déesse. Autant, sinon plus que la statue qui occupait le cœur du temple. Au sein du clergé, les littéralistes appelaient ces accès le triple mystère. Les anagogiques utilisaient des expressions plus ésotériques, comme la croisée mantique ou la triple essence. Seuls les mystagogues avaient la garde de leurs clés. En 8 ans d'abbatiat, Prudence n'avait ouvert la porte de Corne qu'à 2 reprises. Pour rien au monde, elle n'aurait déverrouillé celle d'ivoire et d'émeraude. Elle frémissait encore en se rappelant le désastre frôlé 2 ans plus tôt, lorsqu'un novice curieux, un disciple trop aimé, avait abusé de sa confiance et dérobé la clé de la porte d'émeraude. Fort heureusement, le jeune insensé avait été arrêté avant d'avoir atteint les chambres onérocritales. Mais la mystagogue ne se pardonnait toujours pas sa négligence. Seule la déesse savait le bouleversement qu'aurait provoqué le sacrilège s'il avait franchi le seuil smaragdin. En cette aube souterraine, Prudence se demanda d'où étaient venus les songes qu'il avait visités. À certains signes, elle penchait pour la porte de Corne. N'était-ce pas la contrée terrestre qui lui avait été montrée? Et la fête entrevue ne pouvait être que le tournoi de Lindinas. Mieux encore, pour une fois, elle n'avait pas aperçu le petit garçon dont elle savait qu'il n'était plus qu'une chimère. Tout cela penchait en faveur d'une vision véritable. Mais la fin du rêve la troublait, en particulier les vitraux célestes, où certaines bizarreries lui paraissaient trop fantasques. Peut-être une partie de l'évocation avait-elle échappé à la porte d'ivoire. Si elle ne parvenait pas à discerner l'origine du message, tout son jugement s'en trouverait faussé. Elle décida de méditer la question au temple. « Grâce vous soit rendue pour vos lumières, » murmura la mystagogue. « Accordez-moi des yeux pour voir. » De la main droite, elle traça la mandorle sur son visage. Puis, après s'être inclinée, elle gagna le fond de la crypte où, en ménageant ses genoux un peu raides, elle remonta l'un des 2 escaliers. Elle émergea dans la nef du temple, au pied du chancel. Seule une luminosité vague découpait les vitraux orientaux. L'essentiel du vaste volume de la rotonde était encore plongé dans l'obscurité. Dans le chœur, quelques lampes tremblotaient au pied de la déesse. Elles allumaient de faibles reflets sur les étoffes raffinées qui voilaient la statue. La mystagogue se signa à nouveau. Ses articulations craquèrent quand elle fit sa génuflexion. Puis, elle franchit la balustrade sculptée et gagna sa cathèdre au boudestal de la communauté féminine. À 7 heures matinale, une poignée de clercs avaient déjà gagné leur place dans le chœur et quelques ombres faisaient leur dévotion dans la nef. Les orants psalmodiaient le même intot perpétuel et nul ne s'interrompit au passage de la mer supérieure. 3 religieuses occupaient les stalles féminines, 2 frères les stalles masculines. L'Ampégie, la maîtresse des novices, adressa un imperceptible signe de tête à sa supérieure. L'aide-bibliothécaire vindicien s'en abstint en faisant mine d'être plongé dans ses prières. La mystagogue décrocha son chapelet et se joignit à la litanie. Mais son esprit demeurait dans les chambres onérocritales, et plongeait même plus profondément dans les réminiscences du songe. Usant des clés de l'oniromancie, elle s'efforça de décrypter le sens de son rêve. Certaines visions étaient assez simples à déchiffrer. Elle avait vu ou cru voir le tournoi de Lindinas parce que cet événement nourrissait ses inquiétudes. Que cette fête chevaleresque eût lieu dans le comté de Kimark et non dans le duché ne suffisait point à la rassurer. Tôt ou tard, le conflit finirait par éclabousser le monastère de Mondoir. Du reste, dans la galerie onirique, certains vitraux possédaient un sens évident. Les 2 serres affrontées évoquaient la querelle au sein de la famille ducale. Le troublant portrait de la ci-devant duchesse était une mise en garde sur l'étendue de son influence et de sa duplicité. En revanche, la représentation du myste scolonagre avec la tribu du martyr était plus inattendue. L'écolâtre n'avait séjourné que fort épisodiquement à Mondoire. Il était de ces clercs chez qui l'ambition, l'érudition et le goût du siècle avaient asséché la piété. Ce lettré préférait une existence mondaine dans les cours nobles aux joies austères du ministère. Prudence le concevait mal opérant une conversion tardive pour offrir sa vie à la déesse. Quant au vitrail montrant une vieille géante, il demeurait une énigme complète. En fait, cela ressemblait à la mystification d'un esprit effronté. Certes, les yeux d'émeraude et le grand âge de la figure auraient pu la faire passer pour un avatar de la déesse. Toutefois, le matou perché sur son épaule avait quelque chose de grotesque. Il tournait en dérision l'iconographie sacrée, où l'attribut traditionnel de la divinité était la chouette. Lui substituer ce chat noir donnait à la géante une touche enfantine et un peu ridicule, comme si on avait voulu la réduire à une sorcière de village. Enfin, il y avait eu la clameur d'effroi devant le portrait d'Odéarde. La psalmodie monotone des quelques célébrants en effaçait l'impression dans l'âme de Prudence, mais elle jugeait ce signe capital. L'avertissement était sans équivoque. Mais sur quoi portait-il ? Signalait-il un péril physique, un péril moral ou spirituel ? Prudence avait le sentiment d'avoir négligé ou oublié un signe essentiel qui l'aurait éclairé sur la nature de la menace. Dans quelques heures, elle devait présider au chapitre. Elle craignait que le songe ne fût prémonitoire d'un éclat qui troublerait la communauté. Elle faillit soupirer entre deux versets. Chaque jour, le chapitre monastique révélait davantage de tensions. Une fois de plus, des plaintes seraient formulées à propos des soudards qui occupaient le sanctuaire. D'aucuns s'inquiéteraient également des bandes de misérables qui avaient été signalées dans la montagne. Sur ces sujets, la mystagogue pouvait fournir des réponses simples, quoique peu satisfaisantes. Ce qu'elle appréhendait le plus étaient les récriminations parfois très obliques que certains religieux ne manqueraient pas d'échanger. Derrière les remontrances enrobées de perfidie et les dénonciations mesquines, suppurait le poison des discordes théologiques. Le débat n'était pas nouveau. Voilà des décennies que les mystes de la vieille déesse disputaient de l'interprétation des textes matristiques. Les littéralistes prônaient une stricte orthodoxie fondée sur la prééminence de la lettre et de l'allégorie, tandis que les anagogiques défendaient une exégèse plus mystique. Cette controverse savante était une conséquence inattendue de la guerre des grands vassaux. Après l'effondrement du royaume de Léomance et la défaite des archontes du desséché 2 siècles plus tôt, le culte du dieu des morts avait été proscrit du duché de Bromel. Il en avait résulté bien des désordres, des fins privées de viatiques, désacralisation des rites funéraires, prolifération des querelles successorales, et inévitablement, cérémonie clandestine. Au bout de 30 ans, le pouvoir séculier et les autorités spirituelles s'étaient résignés à restaurer le 4e culte du cyclothéisme. Mais ils y avaient mis la condition qu'il fût réformé, afin que plus jamais il ne pût recourir à la nécromancie royale. Le synode de Havreval, composé de théologiens des 4 cultes, avait ainsi révisé la hiérarchie, la doctrine et la liturgie des sicatoriennes. Il était à l'origine de la réforme Yémal, qui avait permis au culte du desséché d'être restauré non seulement dans le duché, mais aussi dans la marche franche et dans la république de Tchoudalia. Les remous de cette réforme avaient toutefois débordé hors de la pratique des sicatoriennes. Les mystes revenus du synode avait envisagé la possibilité de prolonger l'examen doctrinal au sein du culte de la vieille déesse. Ils avaient été à l'origine du courant anagogique. Cela faisait plus d'un siècle que la controverse agitait le clergé. Elle prenait parfois un tour véhément. D'autant plus véhément qu'elle était alimentée par des doctes infatués de leur savoir et de leurs œuvres. La plupart du temps, cependant, Le débat se réduisait à des correspondances policées entre de vieux épistolographes. Le sanctuaire de Mondoir abritait des partisans des deux sensibilités. Même si la polémique couvait toujours au détour du cloître ou de la salle capitulaire, cela n'avait pas empêché la communauté de vivre en bonne entente pendant des décennies. Mais la récente arrivée de la ci-devant duchesse et sa surveillance avaient perturbé l'harmonie monastique. La mystagogue analysait froidement comment les désordres du siècle, en s'invitant dans l'enceinte sacrée, avaient par contre-coup ravivé les intransigeances spirituelles. Il avait suffi de quelques religieux aux idées plus tranchées pour qu'apparussent des antagonismes. Entre littéralistes et anagogiques, on avait échangé des remarques, des objections et des réfutations. Les discussions, après avoir commencé de façon fraternelle, avaient rapidement pris une tournure plus aigre. S'y étaient agrégés des arguments outrés ou spécieux, des attaques personnelles, et l'inévitable formation de coteries que finissaient toujours par sécréter les sociétés en vase clos. Malgré tous ces efforts de conciliation et quelques décisions plus sévères quand un religieux avait passé les bornes, la mystagogue assistait depuis des mois à la propagation de la division au sein de son chapitre. Elle aurait presque juré que la ci-devant duchesse, si digne et courtoise fut-elle, était le principal agent de discorde. L'influence qu'elle avait gagnée au sein du monastère se renforçait de semaine en semaine et produisait des effets pernicieux. Sans doute cela expliquait-il l'auréole noire que Prudence lui avait vue dans son rêve. Incapable de trouver la sérénité dans la prière, la mystagogue décida de parer aux imprévus. Puisque l'onéromancie restait floue, il lui restait des moyens plus terrestres de prévenir les difficultés. Elle collecterait ses renseignements au plus vite afin d'être prête à désarmer les désordres d'où qu'ils vinssent. Dès qu'elle en eut fini avec ses dévotions, elle quitta précipitamment le temple. Elle sortit par le portail de la souveraine Ontosophie qui ouvrait sur le cloître de la communauté féminine. Dans le jour naissant, une brume légère voilait les arcades et le jardin. Prudence se dépêcha de passer aux latrines, puis se rafraîchit au lavatorium démonial. Elle y croisa plusieurs religieuses qui la saluèrent avec respect, mais dont elle devina l'embarras. Il paraissait un peu déplacé que la mère supérieure fît ses ablutions avec le reste de la communauté. Une entorse à l'usage qui faisait partie des nombreux dérèglements provoqués par la présence de la duchesse déchue. Sortant de la salle d'eau, la mystagogue demanda à une converse de trouver la miste Mincende et de la convier dans ses appartements. Mincende était la sœur auscultatrice de la communauté féminine. Prudence aurait besoin de son assistance pour les conversations privées avec des laïcs. Par ailleurs, dans la mesure où l'auscultatrice était requise à tous les parloirs, elle représentait aussi une précieuse source d'informations. Toutefois, avant de rejoindre ses quartiers provisoires, la mystagogue fit un détour. Elle remonta le corridor qui desservait la salle capitulaire et le scriptorium pour déboucher dans le jardin des simples. Le brouillard y flottait, plus épais que dans le cloître. Il ouatait les contreforts du temple ainsi que les façades de l'infirmerie et de la maison de l'abbesse. Le banc de brume voilait même le belvédère au bout du terrain, et son impressionnant point de vue sur la plaine et la montagne. Mais Prudence ne s'intéressait pas au paysage. Elle se contenta de vérifier qu'une lumière éclairait les fenêtres de sa demeure. Comme d'ordinaire, la prisonnière était levée aux aurores. La déesse savait pourtant que cette grande dame n'avait rien d'une nonne. Cependant, même captive, elle se fixait toujours pour règle d'être debout à la pointe du jour. Cette habitude avait naguère fait partie des principes qui lui permettaient de régenter la cour. À Mondoir, où Odéarde ne disposait plus que d'une dame de compagnie, cette discipline n'avait plus guère d'usage, à part susciter le respect des religieux. Or, voilà justement ce qui entretenait la méfiance de la mystagogue. La ci-devant duchesse inspirait trop d'estime et de sympathie, alors qu'elle représentait un insidieux facteur de désordre. Deux sergents d'armes, frileusement engoncés dans leur houppelande, montaient une garde somnolente devant la porte d'entrée. L'un tapait du pied pour se réchauffer, l'autre bâillait à se décrocher la mâchoire. Cela faisait près d'un an que les indésirables s'étaient imposés, et pourtant Prudence ne parvenait pas à s'y accoutumer. La présence de ces soudards dans la clôture monastique lui faisait toujours l'effet d'une verrue. Du moins ces deux-là se tenaient-ils tranquilles. Il y en avait d'autres qui tuaient le temps en vidant un cruchon et en jouant au dé, quand ce n'était pas en lutinant grossièrement les novices. La mystagogue repartit d'un pas pressé vers ses nouveaux appartements. Parmi tant d'autres perturbations, le déménagement de la supérieure avait été une conséquence imprévue de l'arrivée de la captive. Un an plus tôt, quelle stupeur avait été la sienne quand Prudence avait appris qu'Odéarde de Maginois, répudiée et déchue de tous ses titres pour adultère, serait recluse à Mondoir. Quelle stupeur et quel scandale! Car le duc Ganelon, tout en affectant la clémence pour l'épouse infidèle, s'en vengeait en fait avec une perversité raffinée. Dans un premier temps, la mystagogue avait regimbé, outrée de se trouver une fois de plus manœuvrée par les artifices du suzerain. Elle avait été tentée de refuser tout net, au motif que son monastère n'était pas une prison. Après tout, le souhait du duc avait été présenté comme une requête, non comme un ordre. Mais la mère supérieure était trop raisonnable, et elle connaissait trop bien Ganelon pour lui opposer pareil affront. Malheureusement, Mondoir se trouvait sur une marche frontière qui n'était pas exempte de péril. Et puis le monastère entretenait des rapports compliqués avec le connétable de Traval. En tant qu'avoué du sanctuaire, Anaro de Traval veillait à sa sécurité, mais en tant que voisin et co-seigneur de certaines terres, il était également en litige avec la communauté religieuse. Déplaire au duc aurait signifié être abandonné à l'arbitraire du connétable. Pour éviter de voir Mondoir mis en coupe réglée, Prudence avait donc dû étouffer ses scrupules et accueillir la grande dame répudiée. La mystagogue avait d'abord décidé de réserver tout un étage de l'hostellerie pour la captive et pour sa garde. Cette solution présentait le double avantage d'établir la duchesse déchue dans un logis assez confortable et de la laisser ainsi que ses geôliers hors de la clôture monastique. Toutefois, rien ne s'était passé comme prévu. Une véritable petite armée s'était présentée devant le monastère pour y enfermer la prisonnière. La grande dame déchue avait été escortée par le connétable en personne et par plusieurs de ses bannerets, dont les sires de Caquevel, père et fils, ainsi que le chevalier de Guelde. Ces forces témoignaient assez de l'influence que l'on prêtait toujours à la ci-devant duchesse. L'entourage de Ganelon avait craint qu'elle pût être libérée en cours de route par ses partisans. Toute l'hostellerie et la plupart des communs avaient été réquisitionnés par les gens de guerre. En revanche, le connétable avait refusé que Dame Odéarde y fût logée. Il lui paraissait trop facile de s'en échapper. Il avait exigé que la captive fût claustrée dans la deuxième enceinte de la clôture monastique, en laissant la mystagogue et le chevalier Burchard de Guelde, qu'il avait nommé gouverneur de la prisonnière, s'accorder sur le local de détention. Le sire de Guelde, un garde-chiourme dépourvu de délicatesse, jugeait que le plus commode était d'enfermer la grande dame dans les cachots démoniales mis à la pénitence. Prudence avait protesté, estimant le procédé déplorable et craignant la réprobation qu'il n'aurait pas manqué de soulever dans la communauté monastique. Comme pour compliquer la situation à plaisir, l'ex-duchesse s'en était mêlée. Par l'intermédiaire de la dévouée Almodie, sa dame de compagnie, elle avait fait savoir qu'elle désirait se retirer dans une pauvre cellule de religieux. Mais pas n'importe laquelle. Elle savait que quelques années auparavant, peu avant sa mystérieuse disparition, le grand devin de Belcastel avait fait une retraite dans le sanctuaire de Mondoir. Elle avait jadis connu et même protégé l'illustre romancier. Elle souhaitait donc être enfermée dans le logis qui avait été le sien, afin, prétendait-elle, de communier avec le souvenir de son génie. Pareille requête était naturellement inacceptable. Prêtre ordonné de la vieille déesse, Devin de Belcastel avait séjourné dans le cloître de la communauté masculine. Pour y installer la grande dame, il aurait fallu en déménager tous les frères, sauf à provoquer un scandale encore pire que celui qui avait valu la répudiation à Odéharde. Pour trancher la question, Prudence avait offert l'hospitalité à la ci-devant duchesse dans sa propre demeure, la maison de l'abbesse. Et comme elle ne poussait pas à l'abnégation jusqu'à vivre sous le même toit que son encombrante invitée, elle s'était improvisé un nouvel appartement entre les murs de la Scola, dans une dépendance de la bibliothèque. Telle était la situation qui la privait de certaines commodités privées et lui valait de convoquer ses interlocuteurs au milieu des ateliers de copie, d'enluminure et de reliure. La mystagogue n'avait pas atteint l'entrée de la bibliothèque lorsqu'elle fut abordée par une religieuse sortie de l'aile des visiteurs. Elle soupira intérieurement en reconnaissant le visage apoplectique de Roez, la sœur hospitalière. « Ah, révérende mère, je venais justement solliciter une audience. »« Bonjour, sœur Roez, vous n'aurez pas perdu de temps aujourd'hui. »« Si vous voyez l'état de l'hostellerie, je ne souffre plus ces brutes sans retenue. » Oui, oui, je vous entends bien, ma sœur, et je vous sais gré de venir m'en parler avant l'ouverture du chapitre, mais entrons. Mieux vaut traiter ce sujet en toute confidentialité. » Elle l'entraîna dans le scriptorium, que deux novices balayaient en attendant qu'il fît assez clair pour que les copistes puissent reprendre leurs tâches. Les deux religieuses poussèrent une petite porte, non loin du chauffoir, et montèrent l'escalier qui menait au repère de Prudence. Un frère patientait déjà devant le seuil des appartements de l'abbesse. Loin d'être surprise, la mère supérieure ne parvint pas à étouffer un nouveau soupir. Le myste Émebert, le célérier, semblait bouillir sur place. « Bonjour mon frère, » salua Prudence d'une voix un peu lasse. « Je devine déjà ce qui vous amène. Suivez-moi, je vous prie, nous verrons ce que nous pourrons faire. » Malgré le conduit du chauffoir qui traversait l'un des murs mitoyens, la chambre qu'avait élue la révérende mère était assez froide. Plus spacieuse et plus haute qu'une cellule, elle était très lumineuse, ayant servi d'atelier d'enluminure jusqu'à une date récente. Le jour naissant y coulait par deux fenêtres géminées, vitrées de petits carreaux à croisillons de plomb. Un lit tout simple occupait un angle de la pièce, dominé par le symbole de la chouette ontosophique. Prudence avait gardé trois lutrins de l'atelier d'origine pour y déposer son hymnaire, traiter sa correspondance et les inventaires des fermages. En s'asseyant dans son faux desteuil, elle invita d'un geste ses visiteurs à prendre place sur des tabourets. Ils n'en firent rien, tant ils écumaient d'indignation. « Révérende mère !» s'écria sœur Roez. « C'en est trop! Ces gens de guerre sont pires que des pourceaux !»« Un fléau, révérende mère !» renchérit frère Émebert. « Un véritable fléau, plus vorace qu'une infestation de rats !»« Ils transforment l'hostellerie en tripot. Ils m'ont volé les clés des celliers. Ils brisent les portes et les meubles. Ils ont déjà bu la moitié de la cuvée d'automne. Ils ramènent des femmes de mauvaise vie. » Ils pillent sans retenue nos salaisons et nos fromages. Ils ont même eu l'effronterie de me faire des avances. À ce train, ils auront bientôt épuisé nos réserves. » La mystagogue hochait de la tête avec une commisération désabusée. « Je suppose que vous avez renouvelé vos plaintes auprès du chevalier de Gueldre, » dit-elle sans nourrir beaucoup d'illusions. Loin de calmer les deux religieux, ces mots attisèrent leur colère. « Le chevalier !» s'étrangla sœur Roez. « Ah oui, en voilà un beau de chevalier, le plus voleur de tous et insolent avec cela. Il a osé me dire que si ces soudards n'ont pas de femme, ils s'en prendront aux nonnes. Il s'est moqué de moi quand j'ai exigé qu'on me rende mes clés. Il m'a expliqué le plus sérieusement du monde que laisser ces gens se servir tout seuls m'épargnerait bien des allées venues. Et le plus débauché de tous, il envoie ses sergents battre les campagnes pour lui dénicher des filles à peine nubiles. » Au milieu de ce flot de récriminations, on avait frappé à la porte. La sœur Mincende, entrée avec une discrétion de bon aloi, était venue se placer derrière la mère supérieure. Elle était restée silencieuse et absolument impassible, mais son apparition finit par tempérer les éclats des deux autres religieux. La sœur auscultatrice produisait souvent cet effet. Bien qu'elle ne fût que les yeux et les oreilles de la mystagogue, elle était plus redoutée que sa supérieure. « Ma chère sœur, mon cher frère, je prends acte de vos plaintes, » dit Prudence. « Elles sont plus que légitimes et je partage votre indignation. Je vais faire mon possible pour mettre bon ordre à tout ceci. Vous pourrez naturellement soulever ces problèmes au cours du chapitre, mais j'en appelle à votre sagesse pour vous exprimer avec plus de modération que vous ne venez de le faire. Vous savez combien la communauté est troublée en ce moment. Tâchons de prendre sur nous et gardons la tête froide pour ne point jeter de l'huile sur le feu. La déesse ne nous enseigne-t-elle point que la mesure abrège les errements? Quant à moi, je vais m'employer à raisonner le chevalier de Gueld. Faites-lui savoir que je souhaite le rencontrer séance tenante. Sauf votre respect, révérende mère, ce sujet-là est un impie, observa la sœur hospitalière. S'il n'est pas disposé à vous écouter, rien ne le forcera à se déplacer. Je m'en doute, sœur Roez, répondit la mystagogue avec un sourire las. Mais il serait inconsidéré de froisser sa vanité par une convocation. Au terme d'un instant de réflexion, elle ajouta « Avec mon invitation, transmettez-lui cette simple question. Jadis à Longuemort, serait-il resté sourd à mes requêtes? Vous verrez qu'il viendra. La nostalgie est un maître plus puissant que l'autorité ou le bon droit. » Superficiellement calmé, mais pas vraiment satisfait, la sœur hospitalière et le frère Célérier prirent congé. Lorsqu'elles se retrouvèrent seules, Prudence se tourna vers l'auscultatrice. « Merci d'être venue si vite, sœur Mincende. Je vous ai appelée parce que je pressentais ces nouvelles frictions et la rencontre avec le chevalier. Profitons de ces quelques instants de tranquillité pour discuter de nos soucis. » J'espère sincèrement que vous n'avez rien de nouveau à m'apprendre, mais si vous avez quelque chose à me dire, je vous écoute. » La sœur auscultatrice inclina la tête avec embarras. « Ma mère, dit-elle, je prends la déesse à témoin. J'aimerais vous épargner cette turpitude, mais votre devoir vous impose de me les révéler, soupira la supérieure. Croyez que je n'y trouve nulle satisfaction. Pas plus que moi à les recevoir. Reste que la situation s'envenimerait davantage si nous détournions le regard. Allons, ma sœur, au fait. » Le visage de Mincende reprit sa rigidité ordinaire. Il court une vilaine rumeur à propos du chantre Ledèze, énonça-t-elle. Il se montrerait un peu trop familier avec ses petits chanteurs. Bonté divine. Quelle est cette ignominie? Qu'entendez-vous par ces paroles? Il leur témoignerait des marques d'affection déplacées. Mais je n'en ai pas appris davantage. Y a-t-il un fond de vérité dans ces racontars? Je l'ignore, ma mère. C'est la première fois que j'en entends parler. Le ragot ne provient pas de la chapelle, mais de la scola. Cela peut venir des enfants comme de la maîtresse des novices. Or, c'est ici que le bât blesse. Voilà un moment que la miste Lampégie reproche vertement au chantre de diffuser une interprétation anagogique de l'hymnaire. Lampégie est stricte dans l'application de la doctrine, mais irait-elle jusqu'à recourir à la calomnie pour discréditer Ledèze? Elle n'est peut-être pas à l'origine de l'accusation, mais elle a pu favoriser la rumeur. Quelle vilaine affaire! Il va falloir la traiter avec doigté, ma sœur. Tâchez d'en apprendre davantage et de vérifier si ce bruit a le moindre fondement. Avant d'agir, je dois disposer d'éléments plus concluants que des présomptions. Je m'y emploierai, ma mère. Allez-vous m'accabler avec d'autres problèmes, ma sœur? Je crains que oui. Il y a encore eu des chicanes entre le bibliothécaire Viator et la maîtresse d'atelier Clémentia. Le frère Viator accuse la sœur Clémentia de tolérer les gloses que les copistes introduisent dans les transcriptions d'ouvrages apologétiques. La maîtresse d'atelier les défend en affirmant qu'il ne s'agit pas d'opinions personnelles, mais de références à des commentateurs établis par la tradition. La mystagogue ne put réfréner un geste de contrariété. « Ces deux-là se sont toujours entendus comme chien et chat, s'irrita-t-elle. Leurs rapports se sont dégradés depuis que l'aide bibliothécaire vindicien a été écartée du scriptorium, releva l'auscultatrice.
Oui, vindicien était précieux pour arrondir les angles,
mais il en profitait pour abuser de sa position. Pour l'instant, il serait dangereux de le rétablir dans ses fonctions. Massande approuva poliment, puis, après avoir pincé les lèvres, reprit sur un ton retenu.
« Je suis fâché de vous le dire, révérende mère, mais il est possible que Vindicien ne soit pas le seul membre de notre communauté à avoir servi de courrier entre notre invité et l'extérieur. »«
Hélas, c'est bien ce que je craignais, »
se désola Prudence. « La miste Clémentia est souvent en relation avec Almody ces derniers temps, quand ce n'est pas avec Dame Odéhard. Elle lui a rendu visite directement dans sa maison, hier, après l'office du soir.
Savez-vous quel était le motif de cette rencontre ?
D'après ce qui se dit au scriptorium, Dame Odéhard voudrait passer commande dans l'Enluminure pour un traité de vénerie qu'elle a recopié de sa main. Le débat de deux dames sur le passe-temps de la chasse des chiens et des oiseaux. Ce serait prétexte à des rencontres assez régulières.
L'intrigante, souffla la mystagogue. Malgré la surveillance des gardes et des religieuses, Odéhard de Maginois communiquait clandestinement avec son parti. En fouillant des commandes de tissus destinées aux travaux d'aiguille de la captive, les sergents du chevalier de Gueld avaient intercepté plusieurs missives. Le gouverneur de la prisonnière n'étant guère lettré, il avait soumis ses billets à la mère supérieure avant de les renvoyer au connétable. Prudence en avait lu le texte au chevalier sans rien lui sceller. Mais elle s'était intérieurement étonnée de n'y découvrir que des banalités. Protestation de loyauté du chevalier Cowyer de Thèves, assez mauvais vers d'amour du sire Fitzurs du Havne, bavardage mondain d'Azalaïs de Verre. La frivolité de cette correspondance secrète avait paru hors de propos à la mère supérieure. La pauvreté du subterfuge consistant à la cacher dans des laits d'étoffe avait renforcé ses soupçons. Après tout, dans sa jeunesse, Prudence avait également dû contourner la surveillance de ses chaperons, et elle avait appris que l'un des meilleurs moyens de tromper une tutelle était précisément de lui donner ce qu'elle cherchait. Craignant des complicités compromettantes au sein du sanctuaire, elle avait chargé la sœur Mincende de chercher un autre canal de communication clandestine, sans pour autant en aviser le sire de Gueld. C'était en s'intéressant de près au rapport entre la ci-devant duchesse et la bibliothèque du monastère que l'auscultatrice avait démasqué le véritable intermédiaire, l'aide bibliothécaire vindicien. Prudence avait ainsi récupéré trois autres lettres d'une teneur autrement compromettante, qui avait été adressé par le seigneur de Verre à sa mère. Ces documents représentant un atout majeur dans la situation compliquée du sanctuaire, la mystagogue les avait gardés par-devers elle, sans les communiquer à la prisonnière ni à son gouverneur. Aux yeux de la mère supérieure, les soupçons de Mincende à propos de la maîtresse d'atelier étaient à considérer sérieusement. En fait, tout le scriptorium était suspect. Odéhard de Maginois n'avait pas usurpé sa réputation de fine lettrée. Pendant les 20 années où elle avait été duchesse, elle s'était constituée une splendide bibliothèque. À ce titre, elle avait passé chaque année la commande d'un ou deux ouvrages précieux à l'atelier de Mondoire. Ainsi avait-elle contribué à l'enrichissement du sanctuaire, tant et si bien que copistes et enlumineurs la considéraient toujours comme une protectrice. Quoi d'étonnant dès lors à ce que l'aide bibliothécaire lui eût fourni ses services. La miste Clémentia était probablement dans la même disposition d'esprit que le frère vindicien. Certes, les deux religieux étaient cloîtrés et ne pouvaient servir directement d'émissaires, mais ils disposaient d'une toile de relations fort étendue hors du monastère qui en faisait d'utiles commissionnaires. La bibliothèque de Mondoire entretenait des échanges réguliers avec celle des autres grands sanctuaires, comme Carwell, Brousset ou Avreval, ou avec une institution comme l'Académie des enregistrements de Bourpreux. L'atelier recevait également des commandes privées de grands seigneurs bromalois et tchoudaliens.
c'était via ces correspondances mi-érudites, mi-commerciales, que pouvaient circuler des courriers clandestins comme ceux qu'avait convoyés le frère Vindicien. Faut-il inspecter la cellule de la sœur Clémentia ? Demanda Mincende.
Non, n'en faites rien pour l'instant. Même si elle communique avec l'extérieur, vous n'y trouverez probablement nulle correspondance. Elle dispose de tout le scriptorium pour dissimuler des plis compromettants. Quant à l'atelier des copistes, il serait mal avisé de le fouiller. Cela attirerait l'attention du chevalier de Gueldre et jetterait le discrédit sur toute la communauté. Je vais tâcher de régler ce problème de manière plus discrète. Consacrez-vous plutôt à la surveillance du chantre Ledèze. S'il existe la moindre part de vérité dans le bruit que vous m'avez rapporté, il faudra rapidement prendre des mesures pour remettre de l'ordre dans la chapelle.
Prudence s'abstint toutefois de livrer le fond de sa pensée à la sœur auscultatrice. Elle avait certes pleine et entière confiance dans la loyauté de la sévère Mincende, mais elle la savait aussi de convictions littéralistes. Or, le frère Ledèze et la sœur Clémentia ne cachaient pas leur sympathie pour l'anagogie. Mener une double inquisition sur les agissements du chantre et de la maîtresse d'atelier risquait de passer pour une reprise en main littéraliste du sanctuaire. Cela exacerberait les tensions au lieu de les apaiser. Pour maintenir la réputation d'impartialité que la mère supérieure avait su se ménager jusqu'à ce jour, il convenait d'agir de façon plus feutrée.